Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le huitième dimanche après la Pentecôte. Et je voudrais utiliser surtout le texte de l'épître de Saint Paul aux Romains que nous propose la Sainte Église en ce jour. Et vous montrer comment cette épître s'applique surtout aux prêtres. Nous sommes à une époque où au mois de juillet, donc juste après les ordinations sacerdotales. Et je voudrais vous parler un peu aussi du sacerdoce à partir de cette épître. L'épître aux Romains, dans son chapitre 8, nous explique que nous passons d'un esprit de crainte, d'un esprit de servitude, à un esprit d'adoption, un esprit de charité. Nous étions enfants de la chair, nous devenons enfant de l'esprit. Voilà le texte. Que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Aussi n'est-ce point l'esprit de servitude que vous avez reçu pour rester encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption des enfants par lesquels nous crions « Abba, Père ». Et c'est cet esprit même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Par ce passage de la crainte à l'amour, par ce passage de l'esprit de servitude, l'esprit d'esclavage en quelque sorte, à l'adoption, nous devenons véritablement héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. C'est une phrase qu'il est difficile de comprendre tellement c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment pouvons-nous, nous, pauvres créatures que nous sommes, oser nous considérer comme les héritiers de notre Seigneur Jésus-Christ, héritiers de Dieu. Donc, d'une certaine façon, le baptême qui fait de nous les héritiers du bon Dieu, par la marque d'enfant de Dieu, le caractère du baptême qui est inscrit sur nos âmes, le baptême fait de nous littéralement, on peut dire, aller jusqu'à là, nous divinise d'une certaine façon. Et cette divinisation va apparaître de façon assez extraordinaire dans le sacerdoce lui-même. Certes, tous les fidèles deviennent, par le baptême, des enfants de Dieu. Ils ne sont donc pas prêtres. Cependant, il y a déjà une certaine divinisation de l'âme du laïc par le baptême, mais qui va être poussé, je dirais, encore bien plus haut par un deuxième sacrement qui va donner un autre caractère, un caractère encore plus beau, encore plus extraordinaire, le caractère de ministre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes tous enfants de Dieu par le baptême, mais par le sacerdoce, nous devenons ministres de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devenons encore plus les héritiers de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toute l'Église catholique va être fondée ici-bas sur la terre sur justement le rôle du prêtre, parce que c'est le prêtre qui va donner le Saint-Sacrifice de la messe. C'est le prêtre qui va permettre l'accès des âmes des fidèles à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, à son sang. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui coule sur la croix continue de couler aujourd'hui. Mais il faut passer par la messe pour accéder à ce sang. De la même façon que la Très Sainte Vierge Marie, les Saintes Femmes et Saint Jean qui étaient au pied de la croix ont pu recevoir littéralement, pu toucher le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui coulait de ses saintes plaies. De la même façon, en assistant à la Sainte Messe, eh bien c'est le même sang que nous pouvons approcher. Alors quand nous pensons un petit peu à tout ça, cela doit nous faire littéralement fondre d'amour pour l'égard du bon Dieu. Nous sommes des enfants adoptifs. Nous ne sommes pas des enfants divinisés par nature, bien sûr que non, puisque nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes adoptés par Dieu, qui va faire de nous des enfants, si vous voulez, qui vont être pratiquement divinisés. Le bon Dieu nous aime tellement qu'il veut nous faire participer à sa divinité. Rappelez-vous cette belle phrase de saint Augustin, « Dieu se fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu ». Certes, faire attention à l'interprétation de cette phrase, il ne faut pas dire non plus, bien sûr, que l'homme est Dieu, l'homme n'est pas Dieu, mais l'homme est divinisé, parce que plus on s'approche de Dieu, plus on s'approche de la divinité, s'approchant de la divinité, plus notre âme devient imprégnée de cette divinité. On peut expliquer facilement ces choses-là aussi avec certaines des très belles prières de l'ordination sacerdotale. Je n'ai pas le temps de toutes vous les lire parce que ce serait beaucoup trop long, mais je voudrais vous en lire certaines. Donc ces prières sont extrêmement anciennes. Je parle évidemment de l'ordination traditionnelle, sacerdotale traditionnelle. Vous savez qu'en 1968, l'Église de Vatican II a osé toucher à ces prières, ce qui fait que les nouvelles cérémonies d'ordination sacerdotale de l'Église de Vatican II sont invalides à peu près de façon certaine. On ne peut pas toucher à des textes qui ont 2000 ans d'âge sans faire des catastrophes. C'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi l'Église moderne, l'Église de Vatican II, a-t-elle osé toucher à ces textes? Il est évident qu'il y a quelqu'un derrière. Ce quelqu'un, c'est le démon. Le démon sait que le salut vient par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le démon sait que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, il est trouvé sur la messe, il est répandu sur l'autel de la messe. Pour pouvoir détruire la messe, il faut d'abord toucher au sacerdoce. Voilà pourquoi le démon a suscité ces modifications de 1968 dans l'Église de Vatican II qui rendent pratiquement invalide le sacrifice de la messe. Il n'y a plus de messe. Pardon, ces réformes de 1968 vont rendre invalide l'ordination sacerdotale, excusez-moi. On voit très bien que le démon y est allé par étapes. D'abord, invalider l'ordination sacerdotale, 1968, pour enfoncer encore le clou un peu plus dans la destruction de l'Église, 1969, l'année suivante, nouvelle messe, et ainsi, les sources même de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ sont taries. Certes, Dieu est toujours Dieu, mais ordinairement, Dieu passe par les sacrements pour nous donner ses grâces. Or, les grâces des sacrements ne passent plus dans l'Église de Vatican II par rapport à la Sainte Messe, parce que la Sainte Messe, justement, a été détruite par l'Église de Vatican II. Et pour être sûr d'atteindre son but, le démon a commencé par la destruction des sacerdoces en 1968. Donc voyons un petit peu le texte du rituel d'ordination sacerdotale traditionnelle. Je voudrais vous citer les plus beaux passages. Voilà ce que dit l'évêque dans la monition aux ordinants, juste avant le début de l'ordination sacerdotale, tout à fait au début de l'ordination sacerdotale, lorsqu'il s'adresse aux diacres qui vont être ordonnés prêtres. Voilà ce qu'il leur dit. Mes fils bien-aimés, qui allez être consacrés prêtres, appliquez-vous à recevoir dignement cette charge et après l'avoir reçue, à vous en acquitter comme il convient. C'est aux prêtres d'offrir, de bénir, de présider, de prêcher et de baptiser. C'est donc avec une sainte frayeur qu'il vous faut monter un si haut degré, vous souvenant que ceux qui y sont appelés doivent se distinguer par une sagesse toute céleste, des mœurs pures et une longue pratique de la vertu. Appliquez-vous donc à être tel que vous deveniez, par la grâce de Dieu, les dignes coopérateurs de Moïse et des apôtres, c'est-à-dire des évêques catholiques figurés par eux. Considérez l'acte que vous posez. Imitez le Seigneur, le sacrifice que vous opérez. Célébrant le mystère de la mort du Seigneur, attachez-vous à mortifier votre chair avec tous ses vices et ses convoitises. Que votre enseignement soit pour le peuple de Dieu le remède des âmes, que la bonne odeur de vos vertus réjouisse l'Église de Jésus-Christ, que votre parole et votre exemple édifient la maison, c'est-à-dire la famille de Dieu, en sorte qu'un jour nous ne soyons pas nous condamnés par le Seigneur pour avoir admis un si grand ministère, ni vous pour l'avoir reçu, et qu'au contraire nous puissions être récompensés. Et ensuite il y a les paroles consécratoires. Ces paroles consécratoires qui représentent la forme des sacrements de l'ordre. La matière, c'est la position des mains, c'est ce qui a été défini par le pape Pie XII. Voilà les paroles consécratoires. Nous vous en supplions, Père Tout-Puissant, donnez à vos serviteurs la dignité du sacerdoce, renouvelez en leur cœur l'esprit de sainteté, afin qu'ils soutiennent avec honneur cette dignité qu'ils reçoivent de vous et qu'ils censurent les mœurs du siècle par l'exemple de leurs vertus. Donnez-leur de devenir de dignes coopérateurs de notre ministère, que toute justice brille en eux, afin qu'au jour où ils devront rendre compte de leur administration, ils obtiennent les récompenses de la béatitude éternelle par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Après cette prière consécratoire, après l'imposition des mains de l'évêque, les diacres sont devenus déjà prêtres, mais il leur manque encore un pouvoir, le pouvoir de confesser. Eh bien, ce pouvoir va leur être donné à la deuxième imposition des mains. à la fin de l'ordination sacerdotale. Voilà la prière qui est utilisée à ce moment-là par l'évêque sur les jeunes prêtres. Recevez le Saint-Esprit. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez et seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Et ces deux prières consécratoires, donc la première et la seconde qui concernent le pouvoir de confesser, d'absoudre les péchés, vont faire de ce jeune diacre un prêtre pour toute l'éternité. Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedec. Alors mes bien chers frères, posons-nous un petit peu la question aujourd'hui. Est-ce que j'utilise ces grâces sacerdotales que je peux trouver chez tous les prêtres qui célèbrent la messe de façon traditionnelle et qui sont dans l'Église catholique, les prêtres non unacum? Donc, est-ce que je sais m'approcher de l'autel? Le rôle du prêtre, s'il fallait le définir, c'est de transmettre. Le prêtre, c'est celui qui est le pont entre Dieu et les hommes. Il est pontife d'un certain côté, dans le sens qu'il fait le pont. Le mot pontife a cette origine, le pont. Celui qui est l'aqueduc, en quelque sorte, par lequel les grâces passent depuis la croix de notre Seigneur Jésus-Christ plantée au Golgotha jusqu'à l'autel du sacrifice de la messe. On peut faire un parallèle avec la très belle formule de Saint Dominique, le fondateur des Dominicains, qui avait comme devise « Contemplare contemplata alis tradere ». Contempler et donner aux autres le fruit de ma contemplation. Donc le prêtre, si vous voulez, c'est quelqu'un qui se trouve au pied du calvaire, au pied de la croix du calvaire, et qui va en quelque sorte utiliser toutes les grâces que le bon Dieu a préparées pour les fidèles du monde entier, pendant toute l'histoire du monde, au pied de la croix, et qui va les diffuser, les donner aux fidèles par le sacrifice de la messe. Sacrifice de la messe, pour expliquer avec d'autres termes plus simples, c'est comme une petite clé qui ouvre le coffre au pied de la croix qui contient toutes les grâces que le bon Dieu a voulu nous donner. Les grâces de Dieu passent par le sacerdoce, parce que les grâces du bon Dieu passent par la sainte messe, et qu'on a besoin du sacerdoce pour obtenir la messe. On peut aussi définir le sacerdoce, plus exactement résumer le sacerdoce en trois belles phrases que j'aime beaucoup, que Mgr Lefebvre nous commentait souvent au séminaire des Cônes, là où j'étais formé. La première, c'est une phrase de la première épître de Saint Jean, « Credidimus caritati ». Nous avons cru en la charité. Nous avons cru à la charité si nous avons cru en l'amour du bon Dieu. Qu'est-ce que c'est que la charité? La charité, c'est la vertu théologale qui nous permet, qui nous rend suffisamment forts pour obéir à la loi du bon Dieu. Et donc ce credidimus caritati, nous avons cru à la charité, que Mgr Lefebvre, cette phrase, il l'avait prise comme symbole de son sacerdoce, de son épiscopat, plus exactement, il l'avait inscrit sur son blason épiscopal. Eh bien, ce credidimus caritati, nous avons cru en la charité, nous explique le rôle ministériel du prêtre. Le prêtre est celui qui sanctifie, il est ministre. Donc le ministère, c'est ça, le ministre, c'est le rôle de sanctification du prêtre. Sanctification du prêtre, qui est encore une fois l'aqueduc qui amène les grâces du calvaire jusqu'à l'autel. Le ministère a donc un rôle de sanctification. Le premier rôle du prêtre, c'est un rôle de sanctification. Sanctification d'abord personnelle, c'est évident. Le prêtre ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Donc le prêtre doit d'abord se sanctifier, c'est son premier rôle. Le premier rôle du prêtre, c'est le rôle de la prière. Et ensuite, il va pouvoir, une fois qu'il s'est imprégné de l'esprit de prière, de l'esprit de sacrifice, et bien à ce moment-là, il va pouvoir prêcher pour préparer les âmes à recevoir les sacrements. La deuxième phrase qu'on peut utiliser, c'est une phrase de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. Omnia instaurare in Christo. Cette phrase avait été reprise par Saint Pie X. Elle était sur son blason épiscopal, son blason de pape. Omnia instaurare in Christo. Tout restaurer, tout récapituler dans le Christ. C'est-à-dire tout synthétiser au pied de la croix, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Omnia instaurare in Christo, ça veut dire que l'on souhaite, que l'on veut, de toutes nos forces, que notre Seigneur Jésus-Christ devienne le centre même de toute notre vie. On comprend très bien que cette omnia in storare in Christo, tout restaurer, tout récapituler dans le Christ, c'est-à-dire tout mettre, considérer plus exactement le Christ comme tête de tout ce que nous faisons. Récapitulare, le mot caput en latin, qui est contenu dans le mot récapituler. Le mot caput en latin, ça veut dire la tête. Donc considérer et mettre le Christ comme tête de tout ce que nous faisons. Que tout doit passer par lui. On voit très bien l'énorme différence qui existe entre l'Église catholique qui veut tout récapituler dans le Christ, tout instaurer, réinstaurer dans le Christ, et l'Église de Vatican II qui veut au contraire tout instaurer sur l'homme. Donc le deuxième rôle du prêtre, ce sera d'amener les gens, si vous voulez, à mettre notre Seigneur Jésus-Christ au centre de leur vie de tous les jours, de façon privée et publiquement par le gouvernement. Donc c'est le deuxième rôle du prêtre. Après son rôle de ministère, ce rôle de sanctification, c'est le rôle de gouvernement, de diriger. Le prêtre, c'est celui qui dirige. On l'a vu dans cette première prière de l'ordination sacerdotale, pardon. C'est au prêtre d'offrir, de bénir, de présider, de prêcher, de baptiser. Présider, c'est ça. Présider, c'est le rôle de gouvernement. Et cette magnifique phrase de Saint Paul aux Éphésiens doit être au centre de notre cœur. Moi aussi, je dois tout récapituler, tout recentrer sur notre Seigneur Jésus-Christ. La troisième phrase, c'est une phrase de Saint Paul, 1 aux Corinthiens, Tradidico letacepi. J'ai livré, j'ai transmis ce que j'ai reçu. Ça, c'est le magistère. Le magistère, c'est l'enseignement. Ministère, credidimus caritati, sanctification. Gouvernement, omnia instaurare in Christo. Et magistère, l'enseignement, tradidico de accepi. Le prêtre est donc l'instrument du bon Dieu. Loin de lui, loin du sacerdoce, esprit de nouveauté. Nous ne sommes pas là pour faire des choses nouvelles. Nous sommes là pour faire ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de faire, ce qui a toujours été fait dans l'Église pendant 20 siècles et qui sera fait jusqu'à la fin des temps. Alors attention, mes bien chers frères, ceci ne s'adresse pas simplement qu'au prêtre. Certes, le prêtre doit être l'homme du ministère, l'homme du gouvernement, l'homme du magistère, donc l'homme de sanctification, l'homme de direction vers le bon Dieu, et l'homme qui enseigne l'enseignement divin, qui enseigne l'enseignement du catéchisme pour sauver les âmes, amener les âmes à monter vers le ciel. Mais n'oublions pas, mes bien chers frères, une chose très importante qui est trop oubliée aujourd'hui. C'est que ces trois fonctions de ministère, de magistère et de gouvernement ne sont pas simplement des fonctions purement sacerdotales. Le bon Dieu demande à tous ceux qui sont en charge d'âmes, par exemple les parents. Dans une certaine limite, bien sûr, il faut comprendre, une comparaison n'est pas raison, donc j'utilise cette comparaison pour vous aider à comprendre certaines choses, mais tous ceux qui ont charge d'âmes ont un rôle de ministère, un rôle de gouvernement, un rôle de magistère. Donc les parents qui ont des enfants, à qui le bon Dieu a donné des enfants, doivent sanctifier leurs enfants par le ministère. Et pour pouvoir sanctifier leurs enfants par le ministère, leur ministère de parents, eh bien il faut qu'ils commencent par se sanctifier eux-mêmes. Si les parents ne sont pas remplis du Saint-Esprit par l'état de grâce, gardés soigneusement dans votre âme, des parents qui ne gardent pas l'état de grâce en eux, comment voulez-vous qu'ils sanctifient leurs enfants? Ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. Par le gouvernement, les parents vont devoir diriger les enfants, comme le berger dirige les brebis du troupeau, afin que les enfants restent sur les bons chemins, qu'ils paissent dans les bons pâturages et qu'ils n'aillent pas manger des herbes empoisonnées. Donc il y a un travail de gouvernement des parents pour diriger leurs enfants vers le bon Dieu. Et enfin le magistère, l'enseignement. Devoir d'enseignement, le devoir de former l'intelligence de vos enfants pour qu'ils puissent conserver la foi. Malheur aux parents qui ont oublié ces choses-là. Et c'est précisément parce que les parents, la plupart du temps, ne font plus ces choses-là, ne s'occupent plus de leur ministère, de leur gouvernement, du magistère, ne s'occupent plus d'enseigner les enfants, de diriger les enfants et de sanctifier les enfants. C'est pour cela que les familles s'écroulent. La famille est la cellule de base de la société. Et pour que la cellule de base de la société soit forte, il faut qu'il y ait cette compréhension que de la part des parents qu'ils ont un rôle capital à jouer. On pourrait presque dire c'est presque une fonction entre guillemets sacerdotale, c'est-à-dire vous devez presque agir comme un prêtre à l'égard de vos enfants. pour les sanctifier, pour les gouverner et pour les enseigner. Comme ces choses sont importantes, mes bien chers frères, méditez ces points qui sont pourtant tout simples, ces points que j'essaie de vous expliquer à partir du catéchisme traditionnel, à partir des textes traditionnels. Donc demandons au bon Dieu cette grâce de savoir sanctifier nos enfants, de savoir diriger nos enfants, de savoir enseigner à nos enfants. Je veux utiliser aussi une très belle prière qui est à la fin de la messe d'ordination pour vous aider justement à comprendre toutes ces choses. Voilà ce que dit l'évêque à la fin de la messe d'ordination sacerdotale. Je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais mes amis, parce que vous avez su tout ce que j'ai fait au milieu de vous. Alléluia. Recevez en vous le Saint-Esprit, l'Esprit Consolateur. C'est lui que mon Père vous enverra. Alléluia. Vous serez mes amis si vous faites ce que je vous ordonne. Recevez en vous le Saint-Esprit, l'Esprit Consolateur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, c'est lui que mon Père vous enverra. Et l'évêque va terminer l'ordination sacerdotale par une bénédiction. Voilà ce qu'il va dire au jeune prêtre. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous, afin que vous soyez bénis dans l'ordre sacerdotal et que vous offriez pour les péchés et les offenses du peuple des hosties agréables au Dieu Tout-Puissant, à qui revient honneur et gloire dans tous les siècles des siècles. Il vous faut, mes bien chers parents qui m'écoutez, il vous faut former vos enfants comme si tous avaient une vocation sacerdotale. Certes, les temps sont difficiles et bien difficile d'arriver à savoir où nous pourrions envoyer nos enfants pour qu'ils se forment, devenir de vrais prêtres quand ils ont la vocation. Mais il faut élever nos enfants de telle façon que si le bon Dieu les appelle, ils puissent répondre positivement à cet appel. demandons à la Très Sainte Vierge Marie de nous aider à nous sanctifier. Notre Sainte Vierge Marie, elle est mère. Elle a eu un enfant. Et quel enfant ! Elle a eu notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, elle a rempli son devoir de ministère, de gouvernement et de magistère. D'une certaine façon, notre Sainte Vierge Marie a dirigé l'enfant Jésus. Notre Sainte Vierge Marie a sanctifié l'enfant Jésus, qui n'avait pas besoin de sanctification puisqu'il était Dieu. Mais c'est une façon de parler pour expliquer le rôle de notre Sainte Vierge Marie. Et notre Sainte Vierge Marie a enseigné à l'enfant Jésus. Dans sa science expérimentale, notre Seigneur Jésus-Christ a appris les choses en tant qu'homme. Demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider, pour nous prêtres, pour moi prêtre, à exercer toujours avec dignité mon ministère, mon gouvernement et mon magistère, mais aussi pour que les parents catholiques comprennent leur rôle de protéger leurs enfants par ce ministère, par ce gouvernement, par ce magistère, pour pouvoir transmettre à leurs enfants le fruit de leur contemplation avec l'aide de la Très Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.